Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Fébrile, l'exécutif, à quelques jours de la mobilisation contre la réforme des retraites à partir de jeudi prochain. Détermination, concertation, toujours officiellement les maîtres mots, mais le gouvernement se prépare à coups de séminaires et de réunions, on le verra. Monoprix condamné pour le travail de nuit, l'accord signé il y a un an, retoqué par la justice. Un homme de 28 ans, déjà condamné pour des faits de terrorisme, remis en liberté il y a un an. Voilà le profil de l'assaillant qui a tué deux personnes à l'arme blanche hier après-midi à Londres. Votre invité à 8h20, Eric.
Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes. À la veille de la prise de fonction de la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Elle remet son titre en jeu, l'équipe de France féminine de handball face à la Corée du Sud. Ce matin, début des championnats du monde au Japon. En foot masculin, tirage au sort de l'Euro 2020. Cet après-midi, la France, première de son groupe, pourrait quand même affronter un adversaire de taille. Explication dans 10 minutes dans le journal des sports de Guillaume Batin.
France Inter.
Des déjeuners de travail qui se multiplient, des rendez-vous de calage, comme on dit, des séminaires passés et à venir, crise de réunionnite en ce moment au sein de l'exécutif, alors que se profile la mobilisation à partir du 5 décembre, jeudi prochain, contre la réforme des retraites. Le gouvernement l'a compris, le mouvement sera sans doute très suivi, surtout dans les transports. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Un exécutif de plus en plus prudent avec la réforme des retraites et qui s'active pour éviter une crise sociale et les longues grèves de 1995.
Alors comparaison n'est pas raison, une ministre influente au gouvernement nous lâchait récemment. Il ne vous aura pas échappé que 1995, c'était il y a un quart de siècle et que la France a un petit peu changé depuis. En 1995, on n'avait notamment pas encore conscience qu'il faudrait travailler plus longtemps. Donc oui, il y a bien ce mur qui se profile à l'horizon du 5 décembre, mais l'exécutif a le sentiment d'avoir toutes les cartes en main. Les réunions, les consultations de cette semaine avaient pour but de montrer un gouvernement au travail sur la réforme des retraites où le Premier ministre a encore rappelé que rien n'était fixé dans le marbre, laissant même fuiter quelques pistes de nature à rassurer les syndicats réformistes, notamment sur la prise en charge de la pénibilité, ou en n'écartant pas l'idée de transition plus ou moins longue. Dans le même temps, il s'agit de ne pas faire l'autruche. La grève et les manifestations du 5 s'annoncent massives. Et là encore, dit Édouard Philippe, le gouvernement mettra tout en œuvre pour accompagner au mieux les Français. Un élu faisait cette comparaison. On a un peu l'impression d'être à la veille d'un ouragan. On sait qu'il va frapper, on consolide sa maison. Mais impossible de savoir ce qui restera après son passage.
Merci Laurence Perron. Et dans l'opposition aujourd'hui, un conseil national pour le parti Les Républicains au siège des LR à Paris. Première réunion du Parlement du parti depuis l'élection de Christian Jacob à la présidence. Et puis le congrès d'Europe Écologie Les Verts, sauf coup de théâtre. Le nouveau patron du parti devrait être Julien Bayou, militant associatif de 39 ans, engagé notamment avec Génération Précaire ou encore Jeudi Noir contre le mal logement.
En Grande-Bretagne, la campagne pour les élections générales du 12 décembre est suspendue.
Après l'attaque d'hier après-midi à Londres, qualifiée d'acte terroriste, un homme a tué deux personnes, en a blessé trois à l'arme blanche sur le London Bridge. Il portait une ceinture d'explosifs factice. Les policiers l'ont abattu dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. On voit d'abord l'assaillant maîtrisé par des passants avant l'intervention des forces de l'ordre. Bonjour Olivier Poujade.
Bonjour.
Alors on en sait plus ce matin sur l'agresseur.
Oui, cet homme de 28 ans était effectivement connu des services de police, condamné en 2012 à 16 ans de prison pour infraction terroriste, notamment pour son appartenance à l'organisation Al-Qaïda, groupe qui avait tenté à cette époque de mettre sur pied un attentat visant la bourse de Londres. Ousmane Khan avait bénéficié en 2018 d'une remise en liberté conditionnelle. Une perquisition a eu lieu hier à son domicile dans le comté de Staffordshire, au centre de l'Angleterre, dans les heures en fait qui ont suivi son attaque en plein cœur de la capitale britannique.
Et attaque dans un contexte politique pour le moins tendu, Olivier.
On est effectivement en pleine campagne électorale au Royaume-Uni, des élections législatives cruciales pour l'avenir du pays et pour l'issue du Brexit. Son programme est le 12 décembre prochain, et même si la campagne a été, vous l'avez dit, interrompue hier, Boris Johnson, le Premier ministre, dans sa déclaration à la Nation, a insisté sur le sort réservé aux criminels terroristes, considérant, je cite, que c'était une erreur de leur permettre de sortir plus tôt de prison, et estimant très important de sortir de ses habitudes. Un message très clair, limpide, adressé à son adversaire politique, le travailliste Jeremy Corbyn, qui a souvent réclamé plus de mansuétude à l'égard de ses profils terroristes et a lui-même souvent été caricaturé comme l'ami des terroristes par ses opposants politiques.
Merci Olivier Poujade. Quelques heures après cette attaque de Londres, trois personnes ont été blessées au couteau dans une rue commerçante de La Haye aux Pays-Bas. Trois mineurs qui sont sortis de l'hôpital hier soir. La police recherche un homme âgé de 40 à 50 ans qui a pris la fuite et n'écarte désormais aucune piste.
En France, voici cette décision qui pourrait avoir des conséquences sur tout le secteur de la grande distribution.
Oui, le tribunal de grande instance de Nanterre condamne l'enseigne Monoprix pour avoir employé des salariés de nuit et lui interdit désormais d'employer des salariés après 21h, sous peine d'amende de 30 000 euros par infraction constatée pendant 6 mois. En clair, la justice donne raison à la CGT qui avait attaqué l'accord d'entreprise signé fin 2018 sur le travail de nuit. Mais que reproche-t-on exactement à Monoprix ? Explication Jade Péchira.
Tout simplement d'être moins 10 ans que la loi. La législation encadre le travail de nuit dans le commerce alimentaire de façon précise, notamment dans ce qu'on appelle les zones touristiques internationales, comme les Champs-Élysées. Double rémunération, compensation en heures de repos équivalente au nombre d'heures travaillées, des aides pour la garde des enfants et la prise en charge des frais pour rentrer chez soi après une nuit de travail. En dehors de ces zones, ce sont les accords d'entreprise qui prévalent, en l'occurrence entre Monoprix, la CFDT et la CFE-CGC. Accord dénoncé par la CGT. C'est sur ce dernier point, la prise en charge des frais pour rentrer au domicile, que Monoprix pêche, selon le tribunal. L'enseigne accorde une prise en charge du transport le plus économique, si et seulement si les transports en commun sont indisponibles. Le tribunal de grande instance de Nanterre a donc décidé d'annuler l'accord signé entre Monoprix et les syndicats, en rappelant au passage qu'en dehors de ces zones touristiques, le travail de nuit doit être exceptionnel selon le Code du travail.
Jade Péchira, le travail de nuit dans le commerce alimentaire, sujet sensible. Il y a 2 semaines, le gouvernement renonçait à un projet de loi et annonçait plutôt une consultation de 6 mois. Des dépôts pétroliers bloqués depuis la nuit de jeudi à vendredi dans l'ouest de la France, au Mans, près de Rennes, à Lorient ou encore à Brest. Des professionnels du BTP s'opposent à la fin programmée du GNR. C'est le gasoil non routier qui fait tourner leurs machines. Conséquence, des stations-service prises d'assaut hier, notamment par peur de pénurie. Un couple de médecin originaire de Seine-Maritime, mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. C'était mi-novembre, on l'apprend hier, pour avoir administré un puissant sédatif à plusieurs patients. Un médicament qu'il présentait comme un décontractant ou un somnifère léger. L'un des patients, une femme de 93 ans, est morte. 7 corps en tout ont été exhumés. Aucune plainte pour le moment des familles.
Allez, plongeons-nous à présent dans l'ambiance des livres d'Agatha Christie.
Crime, mensonge et fausses pistes. Mais ce n'est pas un livre, c'est du cinéma à couteau tiré de Rian Johnson, sorti il y a 3 jours en salle. Une comédie au casting impressionnant. Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, encore Christopher Plummer. Jubilatoire et chaudement recommandé par Corinne Pellissier.
C'est un genre un peu passé de mode, le film à énigmes.
Pourquoi vous posez toutes ces questions ?
Une sorte de jeu de Cluedo géant, dans lequel le spectateur va devoir deviner qui de l'infirmière, du petit-fils indigne ou de l'aîné aigri a tué le patriarche de la famille, le célèbre écrivain de polar Harlan Tremblay.
Chaque membre de la famille avait un mobile.
Le crime a eu lieu dans son manoir au lendemain de la fête organisée pour son 85e anniversaire. Et c'est Daniel Craig, dans le rôle d'un Hercule Poirot des temps modernes, qui est mandaté pour mener l'enquête.
Est-ce qu'Harlan avait prévu de couper les vivres à Johnny ? Est-ce qu'il prévoyait de virer Walter ?
Est-ce que Richard avait une liaison ?
Un huis clos rempli de personnages ou en couleurs, emmené par le réalisateur Rian Johnson, à qui l'on doit notamment l'épisode 8 de la saga Star Wars. Le grand écart aujourd'hui est réussi et tous les ingrédients d'une intrigue à rebondissement sont là. Des mensonges, des trahisons, des coups bas à tous les étages, mais à la fin, la vérité, dans un twist que n'aurait pas désapprouvé la célèbre Agatha Christie. Le film puise allègrement dans son héritage littéraire.
Je crois que vous avez certaines choses à me dire.
Tout en adaptant l'action et la manière de filmer au goût du jour, un divertissement très agréable.
Couteau tiré de Rian Johnson dans les salles depuis mercredi, c'est un film inter.